France Inter. Le 7-10.
Mathilde Serrel, avec vous ce matin dans ce studio, une philosophe sensible.
Bonjour Joël Zask.
Bonjour.
Qui admirez-vous ?
Alors j'admire beaucoup de choses et beaucoup de gens. On peut admirer des choses et des gens. J'admire les insectes, le dessin sur les ailes des papillons, la couleur d'un certain nombre de petites bêtes, les mouvements agiles d'un chat. Mais j'admire aussi des grands artistes comme Richard Serra, voilà, qui est malheureusement mort récemment. J'admire beaucoup de philosophes, bien sûr. J'admire mon philosophe préféré, John Dewey.
Bien sûr.
Voilà.
Vous avez fait votre thèse sur
lui. En fait, je me suis rendu compte que l'admiration était beaucoup plus présente dans ma vie que je ne l'avais imaginé avant de commencer ce travail.
Alors ce travail, on va en parler, c'est ce nouveau livre Admirer, éloge d'un sentiment qui nous fait grandir, qui vient de sortir aux éditions Premier Parallèle. Vous y montrez les vertus de cet antidote qu'est l'admiration face à, je cite, l'indifférence et l'adhésion fanatique. Comment ça marche et contre quel mot, docteur, l'admiration?
Voilà, ça va être la panacée universelle. C'est-à-dire que... Mais oui, je pense que d'une part, l'admiration, elle nous guérit de notre indifférence au réel. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à considérer la réalité comme une option. Comme quelque chose qu'on peut mettre facilement entre parenthèses.
L'effet alternatif, par exemple.
L'effet alternatif, mais aussi le solutionnisme technique qui nous promet de nous débarrasser de la réalité, notamment de notre mortalité, de notre condition terrestre. Enfin voilà, c'est ça la réalité. Et donc, comme le disait Descartes, l'admiration, c'est une subite surprise de l'âme. Autrement dit, quelque chose qui nous frappe, quelque chose qui nous surprend. Et donc qui casse notre indifférence, qui fait irruption dans notre vie. Et cette prise de contact, d'autant qu'elle est accompagnée d'un plaisir, d'un intérêt, d'une curiosité, je la trouve très salutaire aujourd'hui. Et je pense qu'on devrait plonger les enfants, par exemple, dans des conditions où ils sont sans cesse surpris par un monde qui vient à l'assaut d'eux-mêmes, mais sans les détruire, sans les handicaper, sans leur faire violence, sans les faire souffrir.
Et à l'école, on devrait transmettre également l'admiration que l'on a pour les mathématiques, par exemple, avant avec les théorèmes.
Mais pourquoi pas ? Parce que les mathématiciens étaient de grands admirateurs de la nature, et les professeurs pourraient enseigner l'admiration de ces mathématiciens avec une admiration qui contaminerait les jeunes. Et parce que l'admiration, c'est quand même très contagieux.
La découverte de ce sentiment de l'admiration, vous la devez à votre professeur de sciences naturelles au collège, Monsieur Meigneux, dont le nom s'est inscrit dans votre mémoire.
Oui, je l'ai marqué.
C'est pas tant le maître qui va être admiré par l'élève dans cette situation, mais vous admirez en fait la capacité du maître à admirer, c'est ça, non ? Qui s'est passé ?
Alors, mais c'est toujours les deux. En fait, ouais. Je pense que il y a des milieux, par exemple, en musique, en art, enfin, où tout le monde est admirateur, en politique aussi, les grands politiciens s'admirent les uns les autres, même s'ils se détestent, par ailleurs. Ça ne demande pas du tout une adhésion totale. Et du coup, je pense que, effectivement, quand quelqu'un vous enseigne avec admiration l'objet de sa spécialité, vous admirez son admiration. Et dans une certaine mesure, vous devenez vous-même admirable parce que, au lieu d'être un spectateur passif ou de s'ennuyer en regardant les mouches passer, en gros, vous rentrez dans une activité qui va être extrêmement formatrice et qui va vous mettre sur votre propre voie. Donc, du coup, vous allez vous épanouir.
L'admiration, c'est un sentiment qui met au travail.
C'est ça. C'est pas du tout passif. C'est ça. Il y a vraiment une différence entre l'admirateur et le spectateur. Que Rousseau note très bien d'ailleurs. Admirer, c'est vraiment se mettre en route. C'est s'élever, mais en gardant les pieds sur terre. C'est se mettre au travail.
Se grandir.
Grandir, voilà, c'est le mot qu'il fallait dire.
C'est le mot que vous utilisez. Oui, en tout cas, dans ce livre, vous êtes l'une des grandes penseuses de notre temps, maîtresse de conférences en philosophie sociale à l'université Aix-Marseille, pionnière de la démocratie participative, théoricienne des rapports entre la citoyenneté et les grands enjeux écologiques. Comment vous en êtes venue, vous, à vous intéresser à ce concept de l'admiration ?
Ben, j'y suis arrivée par les sciences et notamment par un concept du grand savant du XVIIIe siècle, Réaumur.
Réaumur Sébastopol, les gens sauront pourquoi la station à Paris s'appelle comme ça.
Enfin, sauf qu'elle est très bétonnée comparée à l'univers de Réaumur qui était fait d'insectes essentiellement et de métaux dont il a analysé la composition chimique. Et donc Réaumur parle de merveilleux vrai. Et j'avais été très très frappée à propos des abeilles. Et tout le monde se moque de Réaumur au moment où il fait ses recherches sur les abeilles. Parce que l'abeille n'est peut-être pas, disons, un objet digne d'intérêt, digne d'attention. À ce moment-là, voilà. Et lui va forger cette expression pour signifier qu'en réalité, il y a du merveilleux dans la nature. Autrement dit, on ne peut jamais espérer, ou en tout cas prétendre avoir fait le tour d'une question. Les objets conservent des parts de mystère, des parts de secret, et il y aura toujours quelque chose à découvrir, mais en même temps, ce qu'on découvre est tendu par la vérité. Et donc, c'est cette association finalement entre de l'esthétique et de la science, cette association entre un sentiment de beauté et un sentiment de connaissance, en fait.
Et de curiosité.
Et de curiosité, tout à fait, qui est à l'origine de cette expression. Et du coup, évidemment, Réaumur est un très grand admirateur, et j'ai trouvé que c'était un fil, justement, pour regarder autour de soi, pour interroger, bien sûr, la philosophie, mais aussi pour entreprendre des conversations avec autrui.
On profite de votre présence, Joël Zask, pour justement démêler les fils un peu de nos affects contemporains. Vous faites la distinction entre admiration et fascination ou adulation dans ce livre. Prenons un exemple. Tiens, on va écouter des cris de fans. L'attitude des fans, oui, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, ceux de la pop star de tous les records, Taylor Swift, il y a une adulation positive aussi, au point de se mobiliser pour aller voter, par exemple. Comment vous analysez ce fanora, parce que c'est l'expression que vous utilisez, autour de Taylor Swift et sa fonction?
Alors, en fait, les phénomènes n'existent jamais socialement ou psychologiquement à l'état pur, c'est-à-dire qu'ils se mélangent. Et je pense qu'il y a à l'égard d'une vedette comme Taylor Swift un mélange d'admiration et d'adulation. Elle est admirable. Moi-même, j'éprouve de l'admiration pour cette femme qui défend la cause des femmes, qui est d'une force extraordinaire, qui politiquement est relativement irréprochable. Donc, il y a vraiment, c'est un personnage qui.
Il y a un courage aussi, qui est une vertu.
Et puis un courage incroyable. Oui.
Sollicite l'admiration.
Oui.
Aussi.
Même ce qu'elle fait de son corps, gestuellement, enfin de tout son art, et aussi quelque chose qui peut, moi personnellement, même si il y a bien d'autres.
On attend votre livre sur Taylor Swift de Joël Zask.
Mais par ailleurs, je pense que on peut tout à fait aussi repérer autour de cette personne un véritable culte qui ne la sert pas d'ailleurs nécessairement en fait. Et je pense que on peut rencontrer, il se rencontre souvent en des personnes X, Y, Z, un mélange d'adulation d'un côté et d'admiration de l'autre.
Pour vous, l'adulation des fans, c'est d'abord un amour de soi.
Oui, c'est ça. C'est que, en fait, nous sommes fans, ou nous sommes fascinés, ou nous sommes sous l'influence de quelqu'un qui va fabriquer une image dans laquelle on va se reconnaître. Autrement dit, l'idolâtrie, la fascination, etc., fonctionne à l'égard d'une image qu'on pense être la sienne, en fait. Quelque chose qui nous renvoie, en quelque sorte, à nous-mêmes et à quoi on va s'identifier. C'est ce que font les grands chefs charismatiques, d'ailleurs, les chefs politiques.
Il y a ça pour vous, du coup, dans le populisme. Il y a un appel à l'adulation de soi.
Oui, c'est ça. C'est, en fait, le grand chef charismatique fasciste ou disons, autoritaire, justement, crée de lui-même une image dans laquelle il pense que le peuple, les masses, les individus vont se reconnaître en prétendant « je vais dire tout haut ce que vous pensez tout bas », par exemple. Voilà, ça c'est une stratégie qui est bien connue. Autrement dit, les personnes vont effectivement s'identifier à l'image que leur présente le chef et du coup se rendre corps et âme à ses souhaits et à se placer sous sa tutelle en fait et à renoncer à leur propre individualité en réalité. Et donc c'est ce mélange là, ça c'est vraiment autant je dirais que l'admiration vous individualise, vous renforce dans ce que vous avez en propre, autant la fascination.
Et dans des additions de différences, on va dire, au final.
Oui, il y a beaucoup ça aussi. Autant on peut admirer beaucoup de choses différentes.
Voilà. Et donc, du coup, être complexe. Autant l'adulation et faire corps, finalement, avec soi dans sa version instinctive, en fait, en adulant l'autre.
C'est ça, dans ces tendances profondes et finalement dans ces tendances qu'on a en commun avec tous les autres, finalement, et qui ne nous individualise pas, mais qui, au contraire, nous font nous fondre un peu dans la masse.
Il y a ce constat qui est très intéressant dans votre jeu, Elzask. Des actes atroces sont relativisés ou ignorés, des résultats scientifiques patiemment élaborés sont mis en cause, des vérités alternatives abondent, et dans le même temps, et de manière complémentaire, les attitudes d'adhésion absolue et de culte de la personnalité se multiplient. Ce sont les deux faces d'un même dérèglement pour vous.
Ben en fait, oui, voilà, c'est plus il y a de déréalisation dans une certaine mesure, et plus la tendance à ne pas voir la pluralité, la complexité des événements, et cette tendance à se reconnaître finalement en tout, à reconnaître une dimension de soi-même dans les choses qui nous entourent est forte, en fait.
Alors, je profite toujours de votre présence pour démêler, je vous le disais, les fils du contemporain. Il y a une admiration aveuglante dont on parle beaucoup en ce moment. C'est les débats sur le culte de l'auteur en France et ce qu'on a toléré en son nom. Il y avait un article dans The Conversation d'une chercheuse à l'université Bordeaux-Montaigne, Geneviève Sellier, qui dit, voilà, le culte de l'auteur en France explique comment tout un système a autorisé les abus et les mécanismes d'emprise. On est sur la ligne aussi de Judith Godrèche. Comment est-ce que voilà, on démêle cette adulation de l'auteur en France et ses conséquences?
En fait, c'est un phénomène qui est assez ancien, qui est déjà dénoncé au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. On commence à s'inquiéter de ce qu'on appelle le vedettariat.
Au XVIIIe déjà.
Oui, à la fin du XVIIIe siècle. Il est vrai que, disons, ce vedettariat va avoir une influence sur la manière dont l'auteur se positionne, se présente au public, sur la manière dont il écrit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez l'auteur qui va s'esquinter sous l'effet du culte dont il est le centre? Parce que, évidemment, ça va toujours dans les deux sens. L'admiration est une relation, mais le culte, d'une certaine façon, est aussi une forme d'accaparement des capacités de l'auteur. Autrement dit, si l'auteur génère un culte, et je pense qu'il a toujours une responsabilité pour cela. Quand même, voilà, quelque chose d'un...
On entretient un culte, on entretient un climat autour de ce piédestal.
C'est ça, c'est d'ailleurs
on
le
veut bien.
Oui, peut-être qu'on le veut bien. Peut-être qu'au départ, il n'est pas repéré dans toute son ampleur potentielle. Mais en tout cas, il y a, disons, un cercle un peu vicieux qui peut se mettre en place.
Ce qui expliquerait que certains en font un usage différent que d'autres. Quand on pense à Éric Rohmer, qui était cité par Fabrice Luchini, voilà, il y a un culte de l'auteur pour l'œuvre laissée par Éric Rohmer, le cinéaste.
Oui.
Pour autant, on n'a pas de phénomène d'abus.
Non, mais en même temps, s'agit-il véritablement d'un culte? S'agit-il d'une adoration? Ne s'agit-il pas plutôt d'une pure et simple admiration? Parce que ce qu'on n'a pas dit, et peut-être ce qu'on peut préciser maintenant, c'est que finalement l'admiration n'est pas un concept, n'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Il y a peu d'endroits où on puisse faire publiquement état de son admiration.
C'est un sentiment de faiblesse, de servilité, souvent c'est associé à la mauvaise presse, l'admiration.
Voilà, c'est ça, c'est un peu naïf, c'est un peu infantile. Et puis, en plus, c'est confondu avec d'autres sentiments, notamment le culte de la personnalité. Et du coup, on n'a peut-être pas l'habitude de la repérer là où elle est, et de mettre le bon mot sur un affect qu'on constate. Rohmer, moi je pense qu'il est admiré plus que ça n'est pas...
Qu'adulé,
voilà, c'est ça. Donc il faudrait aussi peut-être rentrer dans le détail de...
Vous êtes philosophe, on va écouter un extrait des Beatles, puisque vous en êtes fan, Joël Zask. Head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice what the fool on the hill sees, the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Les Beatles, Fool on the Hill, une chanson que vous admirez profondément. Décrivez-nous ce sentiment et votre définition de l'admiration, finalement, Joël Zask, qu'on comprenne bien.
Là, en l'occurrence, ce que j'admire, d'abord, c'est la cohérence du parcours des Beatles, leur créativité vocale, les harmonies qu'ils découvrent, et puis aussi, bien sûr, le sens de cette chanson. On se demande qui est le fou, finalement. Est-ce que le fou, c'est celui qui est sur la colline à regarder le monde qui tourne sur lui-même, ou est-ce que ce sont tous ces gens qui l'ignorent, qui ne l'écoutent pas, qui ne le regardent pas, qui ne l'entendent pas? Et je trouve que ça dit quelque chose aussi... de notre époque, c'est une chanson qui n'a pas pris une ride. Donc moi, j'admire les Beatles, mais je ne vais pas hurler avec les fans à la sortie du concert, auquel je n'ai d'ailleurs pas assisté. Mais je peux comprendre ce sentiment, je peux le comprendre, mais par contre, je vais vraiment les distinguer. Et je pense qu'ils ne sont pas non plus, pas toujours exclusifs l'un de l'autre. Je dirais que l'admiration, elle est véritablement relationnelle. Donc ça n'est pas moi-même que je recherche... dans l'autre, je ne cherche pas à prendre sa place, je ne me compare pas, je n'y hiérarchise pas, mais finalement je fais un geste vers l'autre, j'identifie, je prends en considération des qualités qui me semblent extraordinaires, et ces qualités, je ne veux pas les imiter, je vais simplement m'en inspirer, elles vont me servir de carburant en quelque sorte pour fonctionner relativement à ma propre histoire, à mes propres souhaits, à mes propres objectifs.
Une manière de nous décentrer pour nous tourner vers un événement extraordinaire qui nous étonne, entre autres définitions posées dans ce livre, Joël Zask, admiré, c'est l'heure des impromptus, ces petites questions et un petit peu contre-intuitif ce matin à poser à une philosophe, puisqu'il s'agit de ne pas réfléchir.
Ah oui, ça c'est compliqué pour moi.
Alors, Cézanne ou Turner?
Cézanne.
Descartes ou Pascal?
Descartes.
Michel Serres ou Philippe Descola?
Michel Serres.
Bruno Latour, que vous admirez, écrivait avant de mourir, l'écologie, c'est la nouvelle lutte des classes. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Oui.
La vérité ou le mensonge?
La vérité.
Vous avez hésité quand même.
Alors, et un Dieu, peu, oui. Ça dépend des fois.
Et Dieu dans tout ça, évidemment, il faut bien qu'on lui parle un petit peu. Ce matin, c'est la question un petit peu comme ça, qui est clé ici, qui clôture toujours les interviews. Donc, et Dieu dans tout ça?
C'est le merveilleux vrai.
C'est le merveilleux vrai.
C'est ça, Dieu.
On en revient à la définition de...
Oui. De Réaumur.
De Réaumur, d'accord. Merci Joël Zask pour ce cours de philosophie express.
Oh ben, merci à vous.
Admiré, éloge d'un sentiment qui nous fait grandir aux éditions Premier Parallèle. Bravo à vous et bonne journée.
Merci beaucoup.